Je me sentais pas gros. Quand je me voyais dans le miroir, je me trouvais normal. À un moment donné, quand vous ne pouvez plus attacher aux chaussures, c'est ça qui m'a fait le déclic en fin de compte. Je préparais les lacets à l'avance et j'enfilais mes pieds dans la chaussure.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisset et Cécile et le quotidien 24 heures. 2,5 milliards d'adultes étaient en surpoids sur notre planète en 2022. Ce chiffre est articulé par l'OMS et il est en constante augmentation. En Suisse, c'est un adulte sur trois qui est concerné. Et avec cette tendance, d'autres pathologies progressent. C'est le cas du foie gras non alcoolique, une maladie souvent silencieuse, mais aux conséquences potentiellement graves. Dans cet épisode, c'est Jean-Pierre qui témoigne de son parcours insidieux qui l'a mené jusqu'à 102 kilos, presque sans s'en rendre compte.
J'ai fait quand même pas mal de sport quand j'étais jeune. Donc j'ai fait beaucoup de football, de tennis. En fin de compte, j'aime faire tous les sports. Après, j'ai eu des problèmes de genoux. Je me suis fait opérer 6 fois des genoux suite au sport que j'ai effectué. Ce qui fait qu'une fois que vous arrêtez de faire du sport, vous continuez à manger comme vous mangez avant. Et là, vous prenez du poids. Quand vous commencez à manger, il n'y a plus de faim. Tant qu'il y a quelque chose à manger, ben vous mangez. Vous n'arrivez pas à vous arrêter. Par contre, si vous dites « je ne mange pas », si vous touchez pas la nourriture, en tout cas pour moi, ça c'est bon. Mais c'est provisoire parce que le cerveau, à un moment donné, il se déconnecte pour une raison que je n'explique pas. Ce qui fait que derrière, vous faites le yo-yo. C'est ce qui fait que vous faites le yo-yo et qu'à chaque fois… Parce que moi, j'ai toujours… Depuis que je suis enfant, j'ai toujours fait le yo-yo en fin de compte. Mais le yo-yo, toujours dans le sens où j'augmentais à la fin. C'est-à-dire que je descends, mais je descends jamais aussi bas que j'étais. Je remonte plus haut, je descends, je remonte plus haut, ainsi de suite, jusqu'à atteindre les 102 kilos. Quoi.
Le surpoids se définit en fonction de la taille et du poids du patient.
Le professeur Jean-François Dufour, spécialiste en hépatologie à la clinique Cécile.
On va faire un petit calcul en rapportant le poids du patient à sa taille. Pour calculer ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, on est en surpoids à partir d'un indice de masse corporelle au-dessus de 25 jusqu'à 30. Au-delà de 30, on est obèse et les valeurs normales sont entre 20 et 25. Maintenant, on vit dans une société où il y a beaucoup de gens en surpoids et aussi de gens obèses. Ceci tient à nos modifications de mode de vie. On bouge beaucoup moins, on a beaucoup moins d'activité physique, on est beaucoup plus facilement sollicité pour manger, on grignote et on mange aussi beaucoup plus d'aliments qui sont pré-préparés et ultra-processés.
En Suisse, selon l'Office fédéral de la statistique, près de 42% de la population est en surpoids ou obèse.
Je me sentais pas gros. Quand je me voyais dans le miroir, je me trouvais normal. Par contre, c'est vrai que quand on regarde les photos des vacances, alors là, en l'occurrence, là, on se rend bien compte qu'on est... On n'est pas normal, on est là vraiment obèse, quoi. Mais sinon, non, parce que moi, ça m'a jamais posé un problème d'être plus fort, mais parce qu'on se voit pas, en fin de compte. En tout cas, moi, je me voyais pas. Donc, ça me posait aucun problème. C'est juste qu'à un moment donné, la santé fait que ça prend un pas, et puis bon, à un moment donné, quand vous pouvez plus attacher vos chaussures, c'est ça qui m'a fait le déclic, en fin de compte. Je préparais les lacets à l'avance et j'enfilais mes pieds dans la chaussure. Non, c'était pas évident. Je veux dire, essouffler dès que vous faites le moindre effort, essouffler. Donc là, impossible de faire quoi que ce soit à 102 kilos, c'est pas compliqué. Vous êtes fatigué toute la journée, en fin de compte. Donc, c'est ce qui fait que vous allez voir un médecin à un moment donné, parce que vous dites bien que vous avez un problème avec la nourriture, parce que il faut dire ce qui est, c'est un problème avec la nourriture. Et c'est pour ça que j'ai été voir à l'époque mon docteur.
Alors, bien entendu, il y a de nombreuses maladies qui conduisent à la prise de poids, c'est clair. Alors, on peut avoir une hypothyroïdie, on peut avoir un problème au niveau des glandes surrénales. Enfin, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir un problème au niveau des ovaires qui peuvent conduire à une prise de poids, une résistance à l'insuline et des complications au niveau effectivement du poids. Ceci n'explique pas le pourcentage énorme de la population qui est dans cette situation-là. Mais bien évidemment que quand on voit un patient qui est en surpoids ou obèse, il convient tout d'abord de considérer ces diagnostics-là et de les écarter. Alors, les patients qui n'ont pas de problème endocrinologique, et la grande majorité de ces patients, moi je vais surtout m'intéresser à savoir comment va leur foie. Donc souvent ils me sont référés aussi parce qu'ils ont eu des examens radiologiques qui suspectent un foie gras. Donc je vais pouvoir le déterminer s'il y a effectivement un foie gras, puis surtout je vais m'intéresser à savoir si le foie est encore élastique ou pas. Une perte d'élasticité du foie nous indique qu'il y a des cicatrices dans le foie, une fibrose du foie qui peut conduire à une cirrhose.
Le foie gras non alcoolique est souvent silencieux. Il peut évoluer pendant des années sans symptômes apparents.
J'ai été voir un professeur qui m'a examiné. On a pu voir que mon élasticité du foie ainsi que le gras dans le foie était largement au-dessus de la norme. Donc, comme d'hab, on vous dit qu'il faut faire du sport pour perdre du poids, etc. Ce que j'ai essayé de faire, mais quand on vous a opéré 6 fois des genoux, ça devient un peu compliqué, quoi. J'ai été un maxi à 102 kilos. Ensuite, j'ai baissé à 92 kilos sans traitement, sans rien.
Le premier niveau de la discussion, qui est quand même le niveau le plus important, c'est de bien discuter avec les patients l'importance de leur mode de vie. C'est-à-dire, remettre une activité physique, voire sportive, c'est important. La sédentarité, c'est pas bon pour le foie. On va bien sûr parler aussi de l'alimentation, de ce que les patients mangent, cuisinent. Est-ce qu'ils ont un potager? Est-ce qu'ils partent à partir de légumes frais ou ils achètent des plats préparés? Ce qu'ils boivent, il faut éviter toutes les boissons sucrées parce qu'elles ont beaucoup de fructose, ce qui est extrêmement toxique, davantage toxique que l'alcool pour le foie. Donc on va s'adresser effectivement au mode de vie des patients et puis on ne va pas forcément se fixer sur le poids. Mais indirectement, du fait des changements dans l'alimentation qu'ils vont faire et s'ils reprennent une activité physique, il va y avoir une influence sur le poids. Bien que, et ça c'est important de le dire, s'ils reprennent une activité physique régulière, ils vont se muscler, ce qui pèse aussi, et donc ils vont changer la composition de leur masse corporelle, ce qui est important. Le périmètre abdominal, la graisse abdominale, qui est la graisse toxique pour le foie, qui est une graisse qui est différente de la graisse qu'on a dans les bras ou dans les jambes, eh bien elle va aussi diminuer.
La graisse viscérale, concentrée autour des organes, est plus dangereuse que la graisse sous-cutanée. Elle augmente les risques de maladies cardiovasculaires.
J'avais toujours mes valeurs de foie gras et d'élasticité qui étaient mauvais. Et c'est là qu'on a prescrit un médicament qui aujourd'hui est prévu pour les diabétiques. Mais par contre, ils ont vu que les effets parallèles étaient bons pour le foie. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé ce traitement avec le Saxenda. Et donc, Saxenda a fait que j'ai continué à perdre du poids. Mais par contre, à la différence d'avant, quand j'étais passé de 102 à 92 kilos, où il n'y avait aucune incidence sur mon foie, et ben là, par contre, on a commencé à constater qu'il y avait une baisse au niveau de mes valeurs, toujours au-dessus de la norme, mais qu'il y avait une baisse significative.
C'est important de demander aux patients à quelle vitesse ils mangent. Parce que quand on mange vite, et de nos jours on mange souvent vite, eh bien le sentiment de satiété n'a pas le temps de s'installer. C'est un sentiment qui va prendre plusieurs minutes. Donc avant de se resservir, il convient de faire une pause de 5-7 minutes pour voir si vraiment on a envie de prendre une deuxième assiette. Maintenant, le fructose est intéressant de ce point de vue-là. Intéressant aussi pour les gens qui vendent ces produits, c'est que le fructose diminue le sentiment de satiété. Alors quand on prend du fructose, on va davantage manger. Ces patients, c'est vrai qu'à à la longue, ils ont un sentiment de satiété qui est un peu faussé. Et donc, on a la possibilité d'aider ces patients avec des médicaments qui vont rétablir ce sentiment de satiété, au sens qu'il va y avoir une diminution de l'addiction à l'alimentation. Alors, ces médicaments, ils sont extrêmement populaires. Ils sont vraiment pris maintenant dans le monde de façon à large échelle. Alors, ce sont des agonistes d'une incrétine qu'on appelle le GLP-1, glucagon-like peptide 1. Et ces médicaments vont justement influencer le sentiment de satiété. C'est des gens qui vont manger moins. Ils vont moins grignoter. Et de façon intéressante, il a été aussi observé qu'ils vont avoir un effet sur d'autres addictions. Par exemple, ils vont moins boire d'alcool. Donc, c'est des médicaments assez spectaculaires parce que les gens perdent à peu près 10% de leur poids corporel. Alors, il faut les manier quand même avec prudence parce que c'est des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires. On commence à les petites doses, qu'on monte lentement afin d'éviter les problèmes de rétention gastrique, de reflux. Il peut y avoir aussi la constipation, des nausées. Donc, c'est des médicaments qu'on va augmenter petit à petit et les patients vont effectivement avoir un sentiment d'avoir moins faim et perdre du poids. Durant ce traitement, il est très important de dire aux patients de maintenir, d'avoir une activité physique. Parce qu'on veut qu'ils perdent du poids, mais de la graisse, pas du muscle. Donc moi, j'insiste toujours chez ces patients-là qu'ils doivent absolument avoir une activité physique. Le fructose, c'est vraiment un problème de santé publique. Hein. Au même titre que l'alcool et la cigarette, on en parle peut-être moins, mais je pense que ça va venir. Le fructose, on en est littéralement inondé. Et toutes ces pathologies sont apparues, si on regarde dans des publications, dans les années 80, dans les début des années 90, 90, au moment où toutes ces grandes firmes agroalimentaires ont commencé à utiliser du sirop de maïs et des choses comme ça qui sont extrêmement riches en fructose. C'est un fructose différent, si vous voulez, que ce qu'on trouve dans les fruits. Dans les fruits, c'est des sucres complexes. Alors, il y a du fructose, mais dans le cadre de sucres complexes, avec des fibres, etc. Là, si vous buvez un soda, vous avez du fructose libre. C'est totalement différent. On ne parle pas de la même chose. Le conseil, eh bien, c'est d'éviter tous ces aliments ultra-processés. C'est de boire de l'eau, ou des tisanes, ou du thé, ou du café, qui protège le foie. Très bon pour le foie, le café. Et puis, alors, de manger des fruits et des légumes.
Avec son traitement, Jean-Pierre perd rapidement beaucoup de poids.
Ces 20 kilos, je dirais, je les ai perdus assez rapidement, en 6 mois à peu près. Quoi. Parce que le fait d'avoir moins envie de grignoter déjà, je mange une ration, ça me suffit. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, il fallait je mange tant qu'il y avait de quoi manger. Quoi. Entre le sport que vous faites en plus ce médicament fait qu'automatiquement, vous perdez du poids. Ouais. Il n'y a pas de miracle. Hein. J'ai gardé la même alimentation. La seule différence, c'est le volume. C'est-à-dire que je mange de tout, y compris les desserts. Avant, je pouvais manger 3 desserts. Aujourd'hui, j'en mange un. Et si j'ai envie de le manger, des fois, je n'ai pas envie de manger un dessert. Si je vais manger chez des amis, je mange le dessert, je ne vais pas me gêner de le manger.
Ils ont un effet à deux niveaux, si on peut dire, très grossièrement. Ils ont un effet au niveau intestinal, sur vraiment la mobilité gastrique, sur le métabolisme au niveau de l'intestin. Et puis, ils ont un effet central, qui est non négligeable, qui est justement un effet direct dans le cerveau sur les circuits d'addiction. Et donc, les gens vont avoir un sentiment de satiété plus précoce. Ils ne vont pas avoir ce plaisir de manger trop et ils vont s'arrêter avant. Il y a des patients chez qui ces médicaments peuvent servir de déclencheur, qui les motivent, qui voient qu'en perdant un peu de poids, ils peuvent reprendre l'activité physique, ils peuvent changer leur alimentation et puis ils prennent ces médicaments pendant plusieurs mois et puis après on peut les arrêter et puis ils ont fait le pas, ils ont changé leurs habitudes. Et puis il y en a d'autres où c'est beaucoup plus compliqué pour de multiples raisons, parfois aussi des problèmes de comorbidité, de mobilité, etc. Chez ces patients, ça va être difficile de s'en passer. Alors est-ce qu'on va faire des fenêtres, est-ce qu'on va arrêter, voir comment ça se passe? C'est très possible, ça c'est à voir. Mais je pense qu'il y aura des patients qui vont devoir être régulièrement traités avec ces molécules.
Aujourd'hui, je suis sur un traitement, mais minimum. Parce que le but, c'est plus de perdre du poids, mais c'est de garder ce même poids pour toujours, quoi, plus ou moins 2 kilos ou 3 kilos. Et donc là, depuis facilement 6 mois, je suis dans cette marge à peu près de plus ou moins 1 kilo, plus ou moins 2 kilos.
Il ne faut pas prendre ces médicaments juste parce qu'on a envie de perdre un peu de poids avant l'été. C'est évidemment des patients qui ont un certain BMI avec certaines comorbidités. En tout cas, si on veut les avoir remboursés par les caisses maladies, il y a des règles très strictes, entre autres sur les prescripteurs. C'est les endocrinologues qui peuvent prescrire ces médicaments. Il y a des effets secondaires connus qu'il convient de discuter avec les patients avant de commencer le traitement. Donc justement, il y a un sentiment quand même justement de réplétion gastrique, ils peuvent avoir davantage de reflux, la vidange gastrique est ralentie, donc ils peuvent avoir une lourdeur au niveau de l'épigastre, ils peuvent avoir des changements dans leurs habitudes de salle, ils peuvent être soit constipés, soit avoir des diarrhées. Il y a des complications plus rares, mais auxquelles il faut faire attention. Si des gens perdent beaucoup de poids rapidement, ils peuvent avoir des lithiases vésiculaires qui se forment parce qu'il y a beaucoup de cholestérol qui va être excrété dans la bile. Et j'ai eu quelques patients qui ont fait des pancréatites avec ces médicaments.
Ces médicaments sont souvent prescrits pour des patients présentant un risque accru de diabète ou des comorbidités comme l'hypertension. Pour Jean-Pierre, en tout cas, c'est presque une renaissance.
Le changement est radical. Avant, je ne pouvais pas faire de sport. Quasiment, quoi. Je veux dire, à part faire un peu de marche de temps en temps. Alors que là, aujourd'hui, je fais 6 jours sur 7 du sport. Je veux dire, je ne peux pas comparer, quoi. Je retrouve le rythme que j'avais quand j'avais 20 ans. Alors, je fais du golf, de la randonnée, de la marche. J'essaie de recommencer un peu la course à pied. Ça fait du bien, en fin de compte, de se sentir enfin, entre guillemets, normal.
Être en surpoids ou être obèse, ce n'est pas une chose irréversible. C'est une chose qu'on peut corriger. Hein? Et puis alors, ce qui est important de voir, c'est que c'est des petites modifications qui aident. On n'a pas besoin de vraiment devenir. Bon, il y a des fois des patients qui deviennent fanatiques dans l'autre sens, mais des petits ajustements permettent d'améliorer la situation. Par exemple, en ce qui concerne le foie gras, on sait qu'il y a une amélioration de la situation hépatique à partir de 5% de diminution du poids corporel. Donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils doivent perdre 30-35 kilos pour améliorer la situation. Toute perte de poids dans cette situation est déjà bénéfique. La relation au poids est une relation complexe, émotionnelle, avec beaucoup d'implications dans l'environnement professionnel, dans l'environnement familial. C'est souvent des sources de tension, donc c'est quelque chose de très sensible. Mais il convient vraiment de bien expliquer à ces patients qu'ils ne doivent pas culpabiliser.
Mes amis proches me disaient « Tu exagères », parce qu'ils m'ont connu quand j'étais à 70 kilos, ils m'ont connu à 80, à 90, à 100. Et automatiquement, eux te disent à un moment donné « Écoute, faut que tu fasses quelque chose, parce que là, tu exagères ». Moi, je ne me voyais pas gros. Je me disais « Ils exagèrent ». Et en fin de compte, non, ils n'exagéraient pas. C'était la réalité. Psychologiquement, moi, ça ne m'a jamais posé de problème d'être gros ou d'être obèse, puisque c'est le terme exact.
Si on laisse traîner ce genre de pathologie, les risques ils sont bien connus. Le risque numéro un, et même pour un foie gras, le problème pour ces patients, ce sont les accidents cardiovasculaires. Ça les met à risque d'accidents cardiovasculaires, que ce soit les infarctus, que ce soit les accidents cérébraux. Donc c'est la cause de morbidité et de mortalité numéro une chez ces patients. En deuxième, ce sont des cancers. C'est aussi chez les patients qui ont une augmentation de leur risque de cancer du côlon en particulier. Et en troisième, c'est vraiment des problèmes hépatiques liés à la cirrhose et liés au cancer du foie.
On veut se soigner parce qu'à un moment donné, il faut trouver une solution. Sinon, à terme, c'est une grève du foie et voire pire encore derrière. Qu'est-ce qui vaut mieux, mourir d'un problème de foie ou de se soigner, puis d'avoir d'autres effets indésirables peut-être? Il vaut mieux avoir un confort de vie à court terme, même si peut-être dans 10 ans, on me dira, il y a un problème. Mais en attendant, j'ai vécu ces 10 ans confortablement par rapport à quelqu'un qui a un problème de foie et qui se retrouve avec une hépatite et qui a peut-être même un cancer à la fin et qui meurt de ça. Donc moi, je préfère vivre correctement 10 ans et après, on verra.
Les patients sont toujours surpris de savoir qu'ils ont une maladie hépatique, même parfois avancé, sans avoir aucun symptôme. Alors, je crois qu'il convient de savoir, de souligner que le foie ne fait pas mal. Alors, c'est bien et c'est pas bien, justement. C'est relativement sournois. Donc, il faut vraiment que, quand ils voient leur médecin traitant, leur médecin de famille, pour des check-ups, il faut prendre des tests hépatiques. Maintenant, il y a des populations plus à risque que d'autres. Alors, les diabétiques. Alors là, vraiment, les diabétiques, je pense qu'ils doivent avoir un moment ou un autre, quand même une évaluation hépatique un peu plus approfondie.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur le surpoids et le foie gras non alcoolique en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois.